France Inter. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans un monde nouveau, le magazine qui s'arrête chaque samedi sur les signaux qui nous font changer d'époque. Et cette semaine, c'est la dernière mise à jour de ChatGPT avec son nouveau générateur d'images. Comme l'a annoncé lundi son PDG Sam Altman, le célèbre service d'intelligence artificielle a gagné 1 million d'utilisateurs en 5 jours, puis 1 million en 1 heure. Et les compteurs tournent encore, tout ça grâce à qui ? Mon voisin Totoro est l'un des chefs-d'œuvre du studio d'animation japonais Ghibli, cofondé par Hayao Miyazaki. Et c'est bien la possibilité de transformer n'importe quelle photo en animé Ghibli qui a créé cet emballement planétaire, au point que ChatGPT a dû imposer à chaque utilisateur un quota journalier. De Taylor Swift à Emmanuel Macron, tout le monde s'est mis à poster des photos en version Ghibli. Mais ce petit jeu sera peut-être vite passé de mode. En revanche, il pose des questions à plus long terme, sur le plan légal, sous prétexte de reproduire un style et pas une œuvre, peut-on, comme ça a été le cas pour Miyazaki et ChatGPT, se passer d'une licence et d'un accord de l'auteur ? Et au-delà des menaces de grands remplacements créatifs ou de pillages économiques souvent évoqués au sujet des intelligences artificielles génératives, on fait face à un enjeu moral.
Je suis complètement dégoûté. Si vous avez vraiment envie de faire des choses effrayantes, vous pouvez le faire. Je n'intégrerai jamais cette technologie dans mon travail. Je pense vraiment que c'est un affront à la vie elle-même.
Dixit Miyazaki lui-même dans ce documentaire de 2013 qui refait le tour des réseaux et où le maître donne son avis sur les animations réalisées avec l'intelligence artificielle. 12 ans plus tard, le problème c'est que l'avis de Miyazaki ne compte même plus et ces nouvelles créations automatisées générées par l'IA peuvent même aller contre la volonté de l'auteur. Alors avec les IA génératives, les artistes vont-ils désormais faire face à leur double maléfique ? N'ayez pas peur, on en discute dans un monde nouveau.
France Inter. Un monde nouveau. Mathilde Serrel.
Et pour discuter, j'accueille autour de cette table Raja Chatila. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur émérite à la Sorbonne Université, spécialiste de l'intelligence artificielle, de robotique et aussi d'éthique du numérique. À vos côtés, Mélanie Clément-Fontaine.
Bonsoir.
Bonsoir. Vous êtes professeur de droit privé à l'Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines et spécialiste de la propriété intellectuelle et numérique. Gauthier Vernier.
Bonsoir.
Bonsoir. Vous pratiquez l'art génératif et vous êtes le cofondateur du trio Obvious. Avec vos compères, vous avez hacké l'art contemporain en produisant des œuvres grâce à l'intelligence artificielle. Enfin, Rim Battal, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes poétesse et autrice d'un premier roman, Je me regarderai dans les yeux, chez Bayard. Et dans la deuxième partie de cette émission, vous allez nous détailler une proposition qui nous a inspirée, celle de la propriété spirituelle d'une œuvre. Alors d'abord, qu'est-ce que vous avez ressenti lorsque vous avez vu pulluler sur les réseaux ces images reprenant les codes visuels de Ghibli ou même de Pixar aussi ? Je commence par vous, Gauthier Vernier, en tant que faiseur d'images générées par des IA.
Bah c'est vrai qu'on travaille beaucoup avec ce type d'algorithme. Les algorithmes de génération d'images, ils sont pas nouveaux. Cependant, avec l'arrivée donc, de cette nouvelle fonctionnalité dans ChatGPT, on s'est retrouvé face à l'obligation d'admettre qu'il y a eu une prouesse technique. C'est vrai que la nouvelle fonctionnalité qu'il propose, elle permet d'infuser le style d'une image dans une image existante ou de faire de la modification d'image d'une manière qu'on n'arrivait pas à faire avant et avec une précision qu'on n'arrivait pas à atteindre.
On ne pouvait pas faire à la manière de avant, ça avait l'air possible ça quand même.
On pouvait faire
à la manière de Francis Bacon par exemple.
On pouvait le faire mais pas aussi bien. Et en fait là où, donc nous ce qui nous a le plus impressionné d'ailleurs c'est la modification d'image. Donc en fait dans ces images qu'on génère avec ChatGPT, typiquement les images Ghibli, si on lui demande de modifier légèrement la coupe de cheveux d'un personnage ou la couleur d'un t-shirt, il y arrive à la perfection. Et ça pour nous c'est vraiment une prouesse technique.
Quand la prouesse technique justement est devant nos yeux, on a envie de soulever le capot. Raja Chatila, en tant que spécialiste de l'IA, est-ce qu'on peut arriver à sourcer, à comprendre comment ChatGPT propose ce service donc, qui transforme n'importe quelle photo, image en animé Ghibli ?
Alors, sourcer, non. Mais parce que, pourquoi ? Parce que ces systèmes, en fait, prennent beaucoup de données, énormément de données, donc toutes les productions du studio Ghibli, par exemple, et en font un modèle statistique mélangé avec d'autres, ce qui permet de d'extraire des régularités, donc un style. Parce qu'un style, c'est aussi des régularités dans les images. Et ensuite, donc, pour imiter ou pour transformer une image, une photo, avec ce style-là, et c'est là qu'il y a une prouesse technique particulière, ce n'est plus globalement sur l'image, c'est des détails qui sont traités. Et c'est un peu le changement dans le nouveau produit de ChatGPT qui a été introduit par OpenAI. Auparavant, on pouvait produire des images à partir juste d'une requête. Et là, c'est une image que vous fournissez qui est transformée pour prendre le style de...
Auparavant, on rentrait un texte, un prompt, comme on l'a dit beaucoup quand on a commencé à parler de ces sujets d'intelligence artificielle générative. Et là, on n'a plus besoin de donner une indication. On rentre une image et on dit à la manière de, c'est tout.
C'est ça. Et bien, à la manière de, c'est un prompt.
C'est un prompt en soi,
Et l'image fait partie du prompt. Il y a plusieurs méthodes pour créer une image. On peut utiliser des méthodes qui directement traitent l'image. On peut justement utiliser aussi des méthodes qui vont utiliser le langage qui est transformé ensuite en interne dans le système pour produire une image. Donc, quoi qu'il en soit, effectivement, le « à la manière de », c'est un prompt associé avec l'image et la réponse qui est toujours, en fait, la réponse la plus probable compte tenu de la requête, eh bien, c'est quelque chose qui est à la manière de Ghibli.
Avant, il générait quelque chose à la manière de. Là, on lui propose quelque chose et on lui demande de l'adapter à la manière de. On pourrait dire de faire un film intégralement, par exemple, à la manière de, si on rentrait l'intégralité du film dans la machine, si je résume. Ça pourrait être possible.
On peut faire des vidéos aussi.
Fais-moi Titanic à la manière de The Artist.
Voilà.
Pas de problème si je rentre Titanic dans le logiciel de ChatGPT. Mélanie Clément-Fontaine, quand on fait des essais parfois avec ChatGPT, il peut se freiner. Il peut vous dire « je n'ai pas le droit de te faire ça en Disney parce que je n'ai pas le droit ». Et puis on va changer la formulation, on va lui dire « dans le style de Disney ». Et là, ce sera possible. C'est ça qui se joue en termes de droit.
Alors, en termes de droit, le paramétrage de l'outil, je doute qu'il réponde à toutes les considérations juridiques. Il est vrai que quand on demande, par exemple, un conseil juridique ou médical, il est dit, attention, je ne suis pas médecin, je ne suis pas avocat, donc il y a des pare-feux, on va dire. Sur le droit d'auteur, en revanche, il n'y a pas grand-chose. Alors là, il paraît qu'ils ont rajouté quand même un avertissement aux utilisateurs, puisque c'est la version payante qui permet, pour l'instant, d'utiliser ces générateurs d'images.
Mais il y a un quota, on va dire. En gratuit, c'est 3 par jour. C'est 3 par jour et 10 pour les payants.
Il y a un avertissement qui dit, attention, à vous de faire... vous assurez que vous avez le droit d'utiliser l'image en support de votre prompt pour générer quelque chose. Donc c'est un peu une façon de se dédouaner de leur responsabilité sur l'usage de leur outil. Par ailleurs, on ne sait pas encore ce qui a eu derrière comme entraînement qui permet de générer aussi facilement des images.
Est-ce que la nuance qu'apporte OpenAI, donc la société qui commercialise et qui propose aussi gratuitement ChatGPT, est-ce que cette nuance qu'ils ont apportée, qui dit en fait nous ne sommes pas inspirés du travail d'un artiste vivant, mais d'un style? Est-ce qu'elle est fondamentale en termes de droit dans ce que ça ouvre?
Comme d'habitude, ce sont des arguments qui sont à la crête toujours du droit. C'est-à-dire que, effectivement, le style, à la manière d'eux, le style n'est pas protégé. On considère que c'est de l'espace libre qui permet justement de s'inspirer, de s'inscrire dans un courant artistique. Et heureusement que c'est permis. Donc, en soi, c'est un bon argument. Là où on voit la limite de cet argument, c'est l'incidence que ça a, c'est-à-dire un usage massif d'un outil qui fait qu'on a un raz-de-marée de production intellectuelle à la manière d'eux, et le résultat va être vertigineux. Je donne juste un parallèle. Quand la photocopieuse est apparue, on s'est inquiété parce qu'il y avait une exception, c'était l'exception de copies privées. On s'est dit, maintenant, n'importe qui peut faire des copies extrêmement facilement. Et donc, c'est un risque économique pour les auteurs, et c'est un risque de porter atteinte, finalement, à leur monopole de façon trop significative. Donc, on a essayé de corriger ça. Et bien, avec ces outils-là, on est dans une situation similaire, mais puissance 10 ou puissance 100.
C'est des photocopieuses massives, en fait, qui sont en circulation. Vous restez avec avec nous dans un instant, on se demandera si les artistes peuvent s'armer face à des doubles indésirés ou indésirables générés par les IA. Juste après un artiste bien réel, c'est Maïro avec I Think, c'est au France Inter.
Comme la Loire, je me tiens au courant de la loi. Si je veux, je me lève, je m'assois. Occupe de toi, je m'occupe de ma foi. Le prix de l'or, le prix du gasoil. J'ai pris du time en rééducation. Le pétard, je vais pas enlever du caleçon. Terreur, je vais rentrer dans le bassin. Si ton flow, on le retrouve dans la braderie, le mien dans la galerie, te rappelle ce que je t'ai appris. Si ton flow, on le retrouve dans la braderie, le mien dans la galerie, te rappelle ce que je t'ai appris. J'suis dans le rap depuis qu'il est moche, et pas à la mode. J'suis dans le rap depuis qu'il est moche, et pas à la mode. Un coup d'œil, je reconnais la fraude. Je viens de Genève comme tous mes frères. M.A.I.R. ce n'est pas le GOAT. Je suis un misérable comme tous les autres. Si tu me demandes, la réponse sera sec, ce n'est pas privé. Je balance à la secte, on peut te traîner en justice. On peut te traîner de la cave à la scène.
Fais sonner ma ligne, fais sonner ma ligne, fais sonner ma ligne, fais sonner ma ligne. Ma bine, il faut ma bine, ma bine, il faut ma bine, ma bine, il faut ma bine, ma bine, il faut ma bine.
Comme à Athènes, je porte le monde sur mon dos comme Atlas. Qu'est-ce que tu m'attelas depuis le baptême? Je suis OP, je rappe depuis longtemps, je fais plus les sons à thème. Du riz et des patates et des haricots, je mets les crampons pour les matchs amicaux. Je connais la bucara, je connais les barrages, nique à les barrages. MIR, c'est nouveau baraque. Faut que la nouvelle baraque soit baraque. Faut que je sois blindé jusqu'à la rate, le marat. Continue, je suis plus dans le démarrage. Là, pour niquer le bénéf. Depuis que j'ai une stache au-dessus de mes lèvres, une hache au-dessus de mes rêves, je me dis que c'est pas si mal d'ouvrir une supérette. La légende dit que bientôt on sera riche. Je préfère qu'on contrarie, on rarie. Plutôt qu'on me laisse le passage en passate. De toute façon, je vais pas la ramener sur Paris. Bientôt, je pose mes affaires à l'ambassade. On resserra demain, on verra. Pour les serrages demain, les embrassades. Les hectares et la pierre, je ne pense qu'à ça. Yeah, je pense qu'à ça. Briquet, j'allume, ordi, j'allume. Dans la pièce, y'a que moi d'irremplaçable. J'ai le mic, le bic et la hache. Pour un app, me piquer ma place. Le silex éclairci dans la grotte. Et le TG anesthésie, ma grotte.
Ma ligne, fais sonner ma ligne. 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 Ma ligne, ma ligne.
Il vient de Genève et il se définit lui-même comme un étudiant du rap. Il nous livre sa réflexion sur un genre parfois coincé entre braderie et galerie. C'était Meiro sur France Inter.
France Inter. Un monde nouveau. Mathilde Serrel.
On en reparlera plus tard, ça se paiera. Donc alors, l'art avec les machines, et on va débuter avec une œuvre, un tableau vendu aux enchères chez Christie's, ouais. Et conçu sans aucune intervention humaine.
Ouais. La vente pour la première fois d'une toile qui a été conçue par une intelligence artificielle. Alors c'est une question presque philosophique qu'on va poser. Voilà,
c'est une question floue là surtout.
J'avais eu l'idée donc d'essayer de m'auto-remplacer, de voir dans quelle mesure je pouvais m'auto-remplacer. J'avais écrit des livres d'histoire traditionnelle auparavant sur l'Antiquité romaine et je voulais voir, donc étant fasciné par cette technologie, si on pouvait écrire un livre d'un type nouveau avec un modèle de langage.
Cette photo qui a gagné un prestigieux concours de photographie a été générée par une intelligence artificielle. C'est ce qu'a révélé son créateur, le photographe allemand Boris Eldaxen. Le farceur a refusé le prix, puis il a expliqué que son but était de vérifier si les compétitions sont prêtes à l'arrivée des images générées par l'IA.
Eminem, bro. There's something that I made as a joke.
J'ai fait ça comme une blague et ça a marché d'une manière inimaginable. J'ai découvert un site d'intelligence artificielle fait pour générer des paroles dans le style d'un artiste que t'aimes. Donc j'ai demandé, écris-moi une rime dans le style d'Eminem à propos de Future Rave, et j'ai été sur un autre site qui peut recréer la voix. J'ai mis le texte et j'ai joué l'enregistrement, et là les gens sont devenus complètement fous.
Alors il faut se l'avouer, la nouvelle génération d'images dans ChatGPT, c'est certainement la mise à jour qui a fait le plus de bruit depuis le début de l'année 2025. Et en même temps, c'est tout à fait compréhensible au vu de la précision et de la justesse des images qui sont générées.
Petite rétrospective de ces 7 dernières années sur le plan sonore, hein, des avancées bluffantes, étonnantes, inquiétantes, mutantes en termes d'art et d'intelligence artificielle. Ça se termine sur cette frénésie du tout nouveau générateur d'images de ChatGPT, capable de transformer n'importe quelle image ou photo en animé du studio Ghibli, mais aussi des Simpsons ou de Bob l'éponge. On passe aussi par les premières dans les grands domaines de la littérature, de la photo, de la musique avec David Guetta qu'on a entendu. Et puis ça commence cette rétrospective par cette vente chez Christie's en 2018 du portrait d'Edmond de Bellamy, tableau entièrement conçu avec l'intelligence artificielle, sauf qu'à l'époque on dit par l'intelligence artificielle et même sans intervention humaine. Je suis toujours avec le spécialiste de l'IA, Raja Chatila, la juriste Mélanie Clément-Fontaine et l'artiste qui utilise l'intelligence artificielle, Gauthier Vernier, à qui on doit justement ce portrait d'Edmond de Bellamy vendu en 2018. Quand vous réécoutez ça, vous dites, bon voilà, c'était il y a 7 ans, on n'y comprenait rien à l'art et l'intelligence artificielle.
Ouais, je me dis qu'il y avait quand même un certain problème de compréhension et un espèce de flou autour de ce qui était l'intelligence artificielle. En plus, à l'époque, on expliquait déjà que l'intelligence artificielle était un outil et que c'était un outil, certes, qui permettait de créer d'une nouvelle manière, donc en externalisant la partie purement inventive, mais tout en gardant la création au centre, enfin l'humain au centre de la création. Donc c'est vrai qu'à l'époque, l'interprétation des médias, du public, a été plus autour de « ouais, ça a été créé par une intelligence artificielle ». Aujourd'hui, après 7 ans, les outils sont dans les mains de chacun. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est très dur d'avoir ce discours-là quand on a un peu eu la chance d'expérimenter avec les outils de génération d'images, les outils de génération de texte, les outils comme ChatGPT qui commencent à combiner toutes ces fonctionnalités. On voit bien que l'humain reste au centre de la création. Donc certes, c'est un pouvoir énorme de pouvoir utiliser ce genre d'outils, de créer des images alors qu'on ne sait pas dessiner, de créer des bouts de vidéo alors que on n'est pas forcément très bon cadreur. Et du coup, ça rend assez ça donne envie de voir ce qui va se passer dans le futur avec ces outils-là quand on voit la vitesse à laquelle ils se développent.
Mais pour revenir à ce qui a déclenché aussi cette émission, c'est-à-dire le cas des reproductions du style Ghibli généré par l'intelligence artificielle, est-ce qu'en tant qu'artiste justement vous ne voyez pas la machine un peu s'emballer en termes de propositions, sachant que là on le rappelait sur tout simplement l'outil. Hayao Miyazaki, donc cofondateur de Ghibli, n'est pas vraiment quelqu'un qui était pro-intelligence artificielle et qui n'est peut-être toujours pas converti. Par ailleurs, ça a cramé énormément d'énergie. On le disait tout à l'heure, il a fallu limiter le nombre d'usages. C'est quelqu'un qui défend des grandes causes autour de l'environnement, de l'écologie. Donc là, il y a peut-être aussi un hiatus. Et enfin, bien sûr, en termes de droit, est-ce que le style de... Enfin, voilà, comment est-ce que vous le vivez en tant qu'artiste? Il y a beaucoup d'hiatus sur le cas de Ghibli.
Alors, il y a plein de choses. Sur l'environnement, il y a une vraie question. C'est-à-dire que quand on utilise l'IA pour essayer de résoudre des problèmes mathématiques ou résoudre des problèmes médicaux, je pense qu'on est tous d'accord que ça vaut le coup de consommer de l'énergie pour ça. Quand on utilise l'IA pour tous générer des nouvelles images de profil en version Ghibli, je suis pas sûr qu'on soit tous d'accord que ça serve à quelque chose. Donc effectivement, il y a des grands questionnements autour de l'usage de l'IA et la puissance que ça demande. Après, on a toujours cette idée que l'IA consomme énormément.
C'est un peu comme laisser la lumière allumée toute la journée, on dit parfois.
Ouais, voilà.
De faire une requête, c'est quand même pas mal. Hein.
C'est vrai que c'est beaucoup. C'est pas non plus comme avoir une centrale nucléaire chez soi, mais c'est vrai que c'est un vrai problème qu'il faut pas réduire parce que c'en est un. Sur la question de la propriété intellectuelle, en fait, on se sent un peu comme, je pense, les photographes à l'époque, qui étaient du coup des ingénieurs, les premiers photographes qui ont eu accès à la caméra. Voilà, ils ont pris leurs photos, ils montent ça au monde, tout le monde est impressionné. Et en fait, après, je sais pas, 10 ans après, tout le monde a accès à ce genre d'outils. Et là, les photographes, ils se disent, ok, maintenant, certes, j'ai été le premier, mais maintenant, il faut que je me démarque des autres et que je propose quelque chose de plus intéressant que simplement générer des images avec du prompt. Et je pense qu'on va avoir des vrais profils artistiques se démarquer. Et c'est pour ça que pour nous, ça va être une époque qui va être intéressante.
Première exposition qui va s'ouvrir, hein, d'ailleurs, le 12 avril, le Jeu de Paume, à Paris, autour de justement des artistes qui se sont emparés de ces outils. outils et rétrospective un petit peu depuis ce qui se crée à l'aune voilà, des années 2010-2020. Raja Chatila, vous qui vous occupez des questions éthiques engendrées par l'IA et le numérique, quand on voit à quel point tous les réseaux donc, sont remplis de ces images façon Ghibli, des photos de famille aux plus grands films, des images d'actualité à la communication de la Maison Blanche sur les expulsions, est-ce que le grand public se soucie réellement de l'origine de cette image? Je veux dire, est-ce que la question éthique se pose pour le grand public et est-ce qu'on peut l'amener à se la poser ou pas?
Je pense que la question éthique devrait se poser si elle ne l'est pas. Et pour cela, enfin, il y a une raison, de mon point de vue, qui est importante. Je suis d'accord que l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui peut être utilisé comme un outil et on peut faire beaucoup de choses avec cet outil. Mais là, on est en train de parler d'un outil de création qui n'est pas indépendant de ce qu'il a appris, c'est-à-dire des modèles qu'on lui a mis en œuvre et qui recréent donc un style. Alors, ce n'est pas quelque chose qu'on peut protéger par la propriété intellectuelle. En revanche, et c'est pour ça que j'ai une question éthique, quand c'est dans le style de Ghibli, ça veut dire que c'est porteur de la culture Ghibli, si vous voulez. C'est porteur de tout l'imaginaire qui accompagne la création de Ghibli.
Et des valeurs, vous iriez jusque-là, des valeurs Ghibli.
Et des valeurs Ghibli. C'est-à-dire qu'on se les approprie, finalement, pour son propre usage. Alors, si c'est pour un usage privé, ça peut ne pas porter à conséquence. Mais quand c'est utilisé et diffusé, justement, pour transmettre un message, ce message, il est articulé avec tout l'imaginaire derrière Ghibli, et donc il y a une certaine manipulation. Et c'est en ça que moi, ça me pose une question éthique. C'est au-delà de la propriété intellectuelle.
Et où est-ce qu'on peut la poser, cette limite-là? Au niveau des producteurs d'IA, au niveau du public, comment ça pourrait se transformer en termes de directives, en termes d'encadrement, de régulation?
Alors, OpenAI a toujours proclamé depuis le début qu'il n'est pas responsable des productions, ce sont les utilisateurs qui sont responsables. Ce qui n'est pas vrai. Pourquoi ce n'est pas vrai? Parce qu'il est évidemment fournisseur de l'outil. On ne peut pas dire qu'il n'est pas responsable dans la mesure où ce n'est pas un outil neutre. Il contient toutes les données, toutes les informations, tous les modèles, etc. Donc ce que l'outil produit porte la marque de celui qui a conçu le système. Pas uniquement de celui qui l'a utilisé en fournissant telle ou telle requête, telle ou telle prompt. Il y a un mélange de responsabilités. Et ça doit être effectivement reconnu. D'ailleurs, c'est relativement reconnu dans le règlement européen sur l'IA. Et c'est pour ça qu'il y a des responsabilités particulières à ceux qui produisent et ceux qui diffusent les systèmes d'IA générative.
Mais par exemple, dans le cas présent, Mélanie Clément-Fontaine, du point de vue du droit, est-ce qu'on aurait pu imaginer une négociation en amont? Ou est-ce que justement, d'ailleurs, on le voit dans les recommandations qui ont été déposées par OpenAI, mais aussi Meta et Google, dans une certaine mesure, à la Maison Blanche, on veut plutôt aller vers une absence de négociation et une ouverture totale de l'entraînement des machines et de l'usage des données au-delà du droit d'auteur. On part plutôt dans la grande dérégulation en ce moment.
Alors, ces entreprises, elles voudront toujours déréguler. La réglementation, ça les freine, donc on ne peut pas s'attendre de leur part qu'elles soutiennent une réglementation. En Europe, on a ouvert les vannes avec la directive de 2019 en permettant à ces outils d'utiliser toutes les données disponibles en ligne. C'est ce qu'on appelle l'exception de fouille de données, qui a été consacrée par la directive droit d'auteur en 2019 et qui, depuis, a été transposée dans nos droits nationaux. Et donc, à partir de là, sauf si l'auteur s'est réservé ses droits et donc refuse que ces productions en ligne soient réutilisées.
C'est le fameux opt-out, on a le droit
exact,
de dire non.
Eh bien, il est tout à fait légitime d'utiliser ces données. Alors, l'IA Act...
Et où est-ce qu'on signe alors? Comment est-ce qu'on opt-out?
Eh bien, de manière appropriée. Alors, de manière appropriée, ça veut dire quoi? Ça veut dire sans doute qu'il faut que l'outil puisse reconnaître la réserve posée par l'auteur. Donc, inutile de dire que ça devient très compliqué pour l'auteur de réserver ses droits. Donc, cette exception qu'on a consacrée en 2019, elle a ouvert un boulevard à ces outils IA. Et l'IA Act n'a rien limité à
ça. Donc ça, c'est à l'échelle européenne. On a proposé l'IA Act pour essayer de corriger peut-être cette première directive,
non, initialement,
pour créer un nouvel encadrement.
initialement, l'IA Act était pas du tout, ne portait pas du tout sur le droit de la propriété intellectuelle. C'était vraiment l'angle mort de cet acte, puisque ici, il s'agissait surtout d'éviter des usages extrêmement dangereux, d'encadrer des usages qui présentaient des risques et de laisser faire des usages qui ne présentaient pas trop de risques.
Comme justement l'art et la création.
Et non, alors ça, c'était un domaine dont on ne parlait pas.
Angle mort aussi, angle mort. Total.
Et donc, évidemment, entre-temps, avant d'adopter cet IA Act, est apparu ChatGPT, un peu trop tôt peut-être, et donc les auteurs se sont émus de l'usage qui était fait de leur création en ligne, et donc ont demandé à ce que soit introduite cette question dans l'IA Act. C'était trop tard, donc dans l'IA Act, on rappelle cette exception de fouille de données qui permet, sauf réserve de manière appropriée par l'auteur.
Des artistes ont publié une tribune, hein, 34 000 artistes demandant rémunération, accord, voilà, de choses qui ne sont pas encore en place.
Et la seule chose qu'ils ont obtenue, c'est qu'il soit proposé un résumé suffisamment détaillé des sources qui ont été utilisées. Alors suffisamment détaillé, c'est pas très clair. Et donc le bureau IA doit proposer un modèle et on verra si ça a vraiment une portée.
Dans les arguments qui sont présentés en ce moment aux États-Unis pour ouvrir à la dérégulation dans l'entraînement, où on lèverait en fait le droit d'auteur sur les données, il y a cette idée de la Chine qui pourrait gagner la course à l'intelligence artificielle. Comment est-ce qu'on peut interpréter ça ? Enfin, moi, je m'adresse peut-être plutôt à vous, Raja Chatila, si vous voyez l'enjeu, on va dire, géostratégique de tout ça, mais cet argument de la Chine, parce que DeepSeek, cette petite baleine, cet autre robot conversationnel a fait un peu peur aux États-Unis, et donc soudain, en fait, au nom de la concurrence, de la compétition, on pourrait laisser passer complètement le droit d'auteur, la propriété intellectuelle qui s'en irait avec les eaux de la course à l'IA.
Ah, je pense que les droits d'auteur, c'est effectivement la cinquième roue du carrosse. Personne ne s'en soucie, parce que ce qui est important, c'est effectivement les impacts économiques et de puissance aussi. Parce qu'avec des systèmes d'intelligence artificielle, on peut faire énormément de choses du domaine médical ou du domaine militaire, par exemple. Donc c'est un outil qui est effectivement tellement maintenant au centre de tous les domaines économiques, tous les secteurs économiques, que je pense que l'art ne va pas peser beaucoup dans sa réglementation ou dans son contrôle. Effectivement, il y a une concurrence mondiale, une concurrence importante entre la Chine et les États-Unis, parce que ce sont les deux pays les plus avancés dans le compte tenu des investissements énormes qu'ils ont faits, hein, c'est pas par hasard non plus. Mais l'Europe n'est pas en reste, mais on a moins d'investissements dans le domaine quand même, il faut le reconnaître. Dans cette course-là, effectivement, la réglementation risque de ne pas être très très suivi. Seulement, il faut savoir quand même qu'en Chine, il y a une réglementation sur l'IA, il y en a même plusieurs. Ils n'ont pas un seul AI Act comme nous, ils en ont plusieurs, parce que le gouvernement chinois veut aussi contrôler ses industriels.
Ouais. Il y a un petit personnage animé, je crois, qui s'appelle Altman ou un truc comme ça, qui est un petit personnage animé japonais. Il y a une jurisprudence autour de ce personnage en Chine, puisqu'il a été utilisé dans des logiciels d'entraînement et la société qui détient, la société japonaise qui détient les droits a pu se retourner contre la Chine.
Oui, mais évidemment, mais je ne pense pas. Enfin, la Chine, de toute façon, ça fait très longtemps que la question des droits d'auteur n'est pas forcément tout à fait respectée, quel que soit le domaine. Il ne s'agit pas uniquement de l'IA.
Est-ce que vous avez le sentiment, Gauthier Vernier, que c'est un enjeu pour vous en termes de création, ces freins, on va dire, à l'entraînement ou pas sur un certain nombre de données? Vous faites partie aussi des artistes qui produisent vos propres données, qui produisent vos propres algorithmes. Donc absolument. En fait, si vous êtes dans un débat parallèle.
Nous, on va toujours quand même prôner un système plus libre, puisque en fait, selon nous, ça va permettre d'avoir une espèce de vague de créativité et qu'en fait le fait de freiner la création et freiner ce processus transformatif, bah c'est un peu se battre contre le vent et de toute façon ça mène pas à grand chose. Et d'un autre côté, on n'est pas aveugle et on voit bien que le système aujourd'hui il fonctionne pas avec les outils qu'on a. Donc typiquement l'intelligence artificielle, elle est pas très bien encadrée puisque justement on est sur un système de d'opt-out où au final personne ne sait comment
empêcher que ces données soient pas de utilisées. Nourrir une machine si on n'a pas envie, voilà.
Exactement. Et donc nous, on prône quand même la réflexion autour de ça et on pense qu'au niveau de l'Europe au moins, on pourrait être moteur d'un système un peu plus malin où par exemple on fait de l'opt-in, donc par exemple on rémunère les gens en fonction d'à quel point leurs données sont utilisées dans les entraînements, en fonction de à quel point leurs noms sont appelés dans les prompts. Il y a plein de choses à imaginer comme ça. Il faut d'abord que donc les gens qui prennent ces décisions comprennent les algorithmes et ensuite qu'ils prennent des décisions assez intelligentes qui vont dans ce sens-là.
En gros, on serait payé à la requête, mais si on peut aussi avoir un regard sur le type d'image générée, parce que être rémunéré sur ce qu'on a produit pour nourrir la machine, c'est une chose, mais être en accord avec ce qu'elle en fait ou ce que les utilisateurs en font, comment est-ce qu'on peut avoir la main là-dessus? Oui.
Alors moi, je crois qu'il faut quitter le droit d'auteur pour ça, parce que on aura du mal à
Mélanie Clément-Fontaine, c'est votre point de vue, c'est le droit de demain.
Eh bien, il y a d'autres fondements. Là, on a une entreprise qui a tout osé. C'est-à-dire qu'a osé une association de OpenAI, ChatGPT, avec un studio Ghibli quand même. C'est incroyable, c'est ce qui a fait le buzz, c'est ce qui a fait qu'on a tous parlé de ce nouveau service offert par OpenAI.
Ah, on fait tous la pub, vous voulez dire là.
Exactement. Donc ils ont été très forts, ils ont fait connaître leur travail à peu de frais. Alors moi je prône un autre terrain que le droit d'auteur pour contrer cela. C'est le terrain de l'action civile sur la concurrence parasitaire, qui est un comportement qui consiste pour un agent économique de s'immiscer dans le sillage d'un autre afin de tirer profit sans rien dépenser sur ses efforts, sur son savoir-faire ainsi que sur sa notoriété. Et bien c'est bien ce qui s'est passé avec le studio Ghibli, c'est bien la notoriété qu'a cherché OpenAI, c'est bien le savoir-faire du studio Ghibli qui a cherché OpenAI et les efforts qui ont été faits pour créer.
Et le nombre d'utilisateurs gagnés, etc., pourrait peser dans la balance de cet usage, donc
exactement.
De concurrence parasitaire de ChatGPT. Parce qu'à la fin, c'est ce que disent les artistes par rapport à ce double maléfique qui pourrait ne pas respecter leurs valeurs, les concurrencer avec leur propre travail et faire baisser évidemment leur rémunération.
Et ça, c'est le deuxième effet. C'est-à-dire que quand on caractérise ces faits-là, on regarde les dommages que ça, les préjudices que ça a occasionnés. Et quels sont ces préjudices? C'est un préjudice économique, un préjudice moral, etc.
Donc ça, c'est votre proposition, Mélanie Clément-Fontaine. Merci, proposition de juriste. On va avoir une proposition de poétesse pour compléter ce nouvel arsenal juridique. Vous restez avec nous, Raja Chatti, là aussi, spécialiste de l'IA et de l'éthique. Et puis Gauthier Vernier, artiste génératif, pourrait-on dire. C'est France Inter et c'est Lola Young. La nouvelle star de la pop anglaise, gouailleuse, drôle, féministe, en colère, totalement bluffante, Lola Young a 24 ans. Elle vient de Londres et elle sort de la même école d'art qu'Adèle et Amy Winehouse, avec une belle filiation puisque le manager d'Amy Winehouse est sorti de sa retraite pour s'occuper d'elle. Son titre Messie est devenu un véritable hymne générationnel et planétaire. 9 milliards d'écoutes, elle revendique le désordre, le gros bordel. Pourra-t-on reproduire le style de Lola Young en IA et l'utiliser pour une pub de produits ménagers? Je ne sais pas.
Mathilde Serrel, Un monde nouveau sur France Inter.
Dans un monde nouveau, j'accueille la poétesse Rimba Tall, autrice d'un premier roman, Je me regarderai dans les yeux. Bonsoir.
Bonsoir Mathilde.
On vous a entendu en début d'émission parce qu'on a eu envie de vous faire réagir à cette actualité intelligence artificielle, ChatGPT 4.0 et Studio Ghibli, si je résume, 4.0, pardon, si je le dis bien. Parce que vous avez posté sur Instagram un très joli texte avec une proposition. Je vous cite Rimba Tall. Je ne nous apprends pas que ça pose énormément de questions sur le droit d'auteurisme et la propriété intellectuelle, mais je me demande s'il ne sera pas bientôt question de défendre une propriété spirituelle. Qu'est-ce que vous entendez par propriété spirituelle, Rimba Tall ?
Alors, propriété spirituelle. Donc tout à l'heure, vous disiez en fait, est-ce qu'on pourra demain essayer de reproduire le style de Lola Young
oui.
Demain, peut-être que...
Et l'appliquer
oui,
à quelque fait, chose qui serait à l'envers
exactement.
De ses valeurs.
Peut-être que oui, mais en fait, quel intérêt? Parce que l'IA, elle singe, elle mime à merveille la sensibilité, elle fait semblant de parler, elle fait semblant d'avoir de l'empathie, elle le fait très bien. Mais en fait, elle n'aurait jamais pu être à l'origine de l'œuvre de Miyazaki, parce qu'elle n'a pas son vécu, elle n'a pas traversé la vie avec son corps, elle n'a pas un corps éventuellement accidenté, elle n'a pas ses cicatrices, elle n'a pas vécu tout ce qui a fait, tout ce que Miyazaki a vécu et qui a fait germer donc cet imaginaire si particulier que sont les films d'animation du studio Ghibli et qu'on adore tellement qu'on a toutes et tous eu envie d'en être un personnage en fait. Et c'est pour ça que moi-même, à l'instar de milliards de personnes peut-être, j'ai produit cette photographie
donc vous avez posté
de moi-même.
Sur Instagram,
que
vous,
j'ai posté.
Façon Studio Ghibli, vous avez participé, vous avez nourri la bête.
Exactement, j'ai pollué la planète aussi.
Mais c'est bien de venir en parler.
Mais justement, c'est ce qui m'a questionnée un peu au-delà de la propriété intellectuelle seulement, en fait, parce qu'une œuvre, ce n'est pas seulement l'objet à un instant T. C'est aussi, on parlait tout à l'heure de style, mais aussi c'est une atmosphère, c'est des valeurs, c'est une personnalité qu'il y a derrière. Si on fait une chanson qui ressemblerait à Messie de Lola Young, ben, en fait, cette chanson, elle ne m'intéresserait pas si elle est générée par intelligence artificielle. Moi, ce que je trouve beau, justement, dans le Messie de Lola Young, c'est parce que c'est incarné par cette femme qui est en rock et punk à la fois, qui, je sais, a ressenti dans son corps toutes ces injonctions en fait, qu'on nous fait en tant que femme, qu'elle traverse la vie avec un corps de femme et qu'elle est ancrée là-dedans, qu'elle a une expérience charnelle de la vie, du désir, de la honte, de la culpabilité, etc., que l'IA n'aura jamais. Elle peut faire semblant de l'avoir, mais elle n'en l'aura jamais. D'ailleurs, vos collègues des Pieds sur Terre ont fait un épisode qui est sur France Culture, de Radio France, ont fait un épisode qui est entièrement généré par IA, et c'est d'une platitude absolue. Parce que, en fait, on sent très bien que derrière, les personnes n'ont pas expérimenté, n'ont pas ressenti la peur d'être coincées dans ce téléphérique. Donc, on ne se projette pas dans leur vécu.
Et la question de la propriété spirituelle, elle vient dans le cas de Miyazaki et donc du studio Ghibli, parce qu'on s'est retrouvé à rebours, on le disait tout à l'heure, des valeurs écologiques, des valeurs humanistes, parfois du studio Ghibli, dans l'usage qui a été fait. Alors qu'est-ce que ce serait qu'une propriété spirituelle? Bon, l'artiste de son vivant peut donner son accord, sinon ce serait les ayants droit qu'on va voir et à qui on pose la question. Ce serait quoi la propriété spirituelle?
Alors là, je pense que c'est Mélanie Clément Fontaine qui pourra imaginer cette suite-là. Mais ce que ça m'évoque, c'est que d'abord, on devrait essayer de redéfinir ce qui fait exactement notre humanité, en fait, pour pouvoir le formuler et le préciser et décider qu'est-ce que j'ai envie de rendre réplicable de moi-même ou pas. Si je meurs demain, est-ce que je dois préparer un testament dans lequel je vais demander de ne pas reproduire mes tics de langage, ma voix, ma poésie, mon style, est-ce que j'ai envie que si, je sais pas, mes fans ou mes enfants n'arrivent pas à faire leur deuil, est-ce que je peux les autoriser ou pas, ou leur interdire de reproduire une sorte de maman rime ou de rime battle qui me ressemblerait et qui pourrait continuer à exister au-delà de moi-même. Et on a vu le cas de certains comédiens, comédiennes, des actrices qui sont décédés, on a utilisé leur voix pour leur faire dire des choses qu'elles et ils n'ont jamais dites. Ça, par exemple, je trouve ça extrêmement dangereux et triste. Et donc, je pense que j'imagine en tout cas que la propriété spirituelle pourrait aussi englober tout ceci.
Vous êtes appelée à la rescousse, Mélanie Clément-Fontaine, parce qu'il faut que vous imaginiez l'application juridique de cette proposition de propriété spirituelle. Mise par Rime Battle sur la table.
Alors cette proposition, elle m'évoque plein de choses. Tout d'abord, un paradoxe, c'est mettre spirituel avec propriété ensemble, parce que justement, il y a tout un pan du droit qui n'est pas la propriété, qui sont les droits de la personnalité, le droit de l'image, du son, de la voix. C'est aussi le droit moral, qui justement est hors propriété, hors aspect patrimonial. Mais je crois que ça se rapproche beaucoup de ça, ce que vous évoquez. Et je pense que la référence à la propriété, en fait, et derrière, il faut y voir la référence aux droits fondamentaux. Et c'est bien de cette question qui...
Elle est née avec les Lumières, la propriété intellectuelle. Elle est née au XVIIIe siècle avec les droits de l'homme.
Elle est née, elle est née à la Révolution avec surtout la liberté individuelle, donc la propriété individuelle. C'est assez mercantile au départ, hein, la propriété intellectuelle et le droit d'auteur. L'aspect moral, justement, il apparaît qu'au XIXe siècle. Mais par propriété, je pense que vous renvoyez aux droits fondamentaux et donc à ces garde-fous qui protègent l'humanité. Parce que ce sont ça, les droits fondamentaux qui sont consacrés à l'échelle internationale, donc des valeurs alors occidentales tout de même, communes, et qui sont aujourd'hui discutées. Et notamment sur la base de l'éthique, quand je vois partout poindre l'IA équitable et éthique pour tous, moi je ne sais pas ce que ça veut dire et je crois malheureusement que c'est un discours marketing.
Bah justement, Raja Chatila, notre spécialiste de l'éthique et de l'IA, qu'est-ce que vous en pensez? La propriété spirituelle, comment? et puis aussi cette analyse de Mélanie Clément-Fontaine.
Oui, c'est très intéressant, ça se rejoint. En fait, ce qu'a évoqué Rime... existe parce qu'on fait parler les morts avec l'intelligence artificielle. Et c'est un service ou c'est quelque chose qui peut se vendre par certains, de faire parler, de faire revivre entre guillemets, à travers un système d'intelligence artificielle, une personne chère qui a disparu, pour continuer à interagir avec elle, pour lui faire dire des choses qu'elle n'a jamais dites. Mais pour cela, bien sûr, on a capturé ses données, on a entraîné l'IA. Donc, pour moi, cet aspect-là et la notion, je pense, de propriété, moi aussi, ça me choque un peu,
spirituelle.
Je vais traduire ça autrement, puisqu'on parle d'éthique. C'est une atteinte à la dignité humaine. C'est une atteinte à la dignité de la personne qui, soit c'est une personne décédée, soit c'est une personne vivante, mais qui a cette propriété, j'utilise le terme à défaut d'autre chose, sur son œuvre, sur ce qu'elle a vécu, sur ce qu'elle a exprimé, etc.
Et on son ressenti d'humain, en fait.
Exactement.
Là, il y a une atteinte
à la dignité humaine. Donc, on a cette notion de dignité, et on a même des textes de loi sur l'atteinte à la dignité humaine, et je pense que, de ce fait, on commence peut-être à être armé pour mettre cela en avant.
On pourrait les mobiliser. Gauthier Vernier, le mot de la fin. Vous parliez d'un opt-in, c'est-à-dire de la capacité à dire « oui, vous pouvez utiliser mon essence ». Dirait-on, si on parle de propriété spirituelle. Et puis, si on n'a pas dit « oui, vous pouvez », par conséquent, c'est que non. Alors, ça pourrait fonctionner comme ça ?
Ça me paraît être la manière la plus logique de procéder. Ça risque de poser un problème pour les gens qui n'ont pas eu le temps de dire oui ou non et qui sont morts depuis un certain temps. Donc en fait...
mais les artistes vivants, en tout
pour
cas.
Pour les artistes vivants, en tout cas, ça pourrait être une bonne
Miyazaki.
Solution. Ouais, tout à fait. Après, pour les artistes dont on dispose de l'œuvre et qui ont des choses qui sont libres de droit, ça pose une vraie question de se dire, en fait, est-ce qu'on a le droit...
ce qui est votre cas aussi, en tant qu'artiste qui générait des œuvres.
Tout à fait, ouais. C'est des choses qu'on fait et on aime bien poser la question de est-ce que si on propose quelque chose à la manière de quelqu'un, ça apporte vraiment quelque chose. Et là où j'aimerais rebondir sur ce que tu as dit, c'est
Rime Battle, oui.
C'est vrai qu'on ne voit pas. C'est que, en effet, pour moi, la création, elle doit être incarnée. Et je trouve que c'est là qu'on peut vraiment faire une différence. C'est-à-dire qu'une création qui serait purement. Créé par l'IA sans... et c'est quelque chose qui n'existe pas en soi, parce qu'il y a toujours un humain qui est derrière la machine et qui donne un prompt ou qui crée. Elle n'a pas vraiment d'intérêt, cette création-là. Alors que la création qui découle de la démarche humaine, même si elle utilise l'IA comme un outil, pour moi, elle a raison d'être. Et l'outil, ça devient un outil l'IA devient un outil d'expression qui permet l'expression à des gens qui ne peuvent pas forcément s'exprimer autrement.
Mais elle peut être une ombre aussi un peu dégradée de la création à des fins mercantiles, tout simplement.
Bah, ouais, on peut le dire. Il y a une responsabilité de bien faire, on va dire, quand on aborde ces sujets-là. Ouais.
Voilà, on n'a pas du tout fait le tour, mais on vous a proposé quand même d'avancer dans un monde nouveau un peu plus armé pour que les artistes ne se retrouvent pas avec l'intelligence artificielle face à ce qu'on a appelé ce double maléfique qui leur ferait les poches et qui en même temps renverserait leurs valeurs. Grand merci à tous les quatre. Rime Battle, on conseille votre premier roman, Je me regarderai dans les yeux, chez Bayard, vos poésies et votre compte Instagram. Du coup, il se passe beaucoup de choses. Merci au professeur Raja Chatila et Mélanie Clément-Fontaine d'avoir été avec nous. Je rappelle, Raja Chatila, que vous êtes professeur émérite à la Sorbonne Université, spécialiste d'intelligence artificielle, de robotique, d'éthique et de numérique. Et vous, Mélanie Clément-Fontaine, vous êtes professeur de droit privé à l'Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, spécialiste de la propriété intellectuelle et numérique. Et vous allez publier un ouvrage collectif, Le droit européen du numérique. Ce sera donc chez Larcier. Et puis Gauthier Vernier, vous continuez à produire de l'intelligence artificielle et de l'art général. Dites-vous, avec le collectif Obvious. On vous suit sur obvious-art.com et pour ceux qui seraient à Séoul, par hasard, vous avez une exposition en ce moment. Grand merci à mon équipe, à la rédaction en chef, c'est Redouane Tella, la réalisation Frédéric Milano, la préparation Marion Philippe, la programmation musicale Juliette L'Orphelin et la technique cette semaine, Théo de Lobadère.